Avec quel argent t'as acheté ça?
La drogue. Je vends des drogues dures.
Ah, cool.
Nous sommes des fermiers. Nous sommes des artisans. Nous sommes des fils et des filles de marchands.
Dites-moi, Vigna.
Non, Ellie, ça c'est pour les adultes.
Wouah! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes?
Ça en valait vraiment la peine.
Et alors, ces connards, ils sont toujours...
Les fils et les filles de bord de ciel.
Ce n'est pas le genre de casu de vous abandonner, pourtant si... Nous l'avons fait, malheureusement. Et oui, nous l'avons fait. Et nous avons reformulé quelque chose de plus intéressant, je pense. Enfin, en tout cas, on a essayé. J'espère qu'on va plaire au... Je me suis perdu dans ma propre phrase. J'espère qu'on va plaire à tout le monde et puis bah que ça va vous donner envie de nous écouter. Mais pour ce faire, je ne serai pas seul. Hein. On va toujours s'entourer de gens. Hein. Et je reçois cette semaine notre cher Didier. Ça va, Didier, la forme?
Ça va, et toi? Salut, les gars. Salut, mademoiselle.
Je reçois aussi donc Fanny, salut, j'aurais dû commencer par la dame d'ailleurs,
bah, désolé.
Hello.
On reçoit aussi Nirox, et salut Nirox.
Et salut, salut.
Et on sera aussi entouré de Darge, ça va Darge?
Je vais bien vous entourer, ouais, ça va super.
Ah,
bien.
T'as vu, ça donne envie.
Let's go.
Du talent, des envies, pas de génie, bienvenue à tous dans Casu. Alors cette semaine, on va parler de quoi en fait? Alors du coup, on va évoquer pas mal de petits sujets. Je pense déjà qu'on va s'attarder un petit peu sur l'univers un peu fantasmagorique de Zelda, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et on va sûrement évoquer les mondes ouverts, la pétition des influenceurs, tout ça un peu pêle-mêle, pour que vous puissiez pas trop vous repérer, c'est un peu l'idée. Et on finira par un sujet dont on vous parle pas tout de suite, parce qu'on va pas tout vous dévoiler maintenant. Et je vais laisser la parole à Darge qui va nous parler de Zelda.
Oui, merci beaucoup. Alors, Zelda, c'est une licence de jeux vidéo ultra célèbre. En général, il y a... donc, pour les gens qui ont grandi avec les jeux vidéo, qui ont grandi dans les années 90-2000, il y a deux grandes licences. Et soit on est team Nintendo, soit on est team un peu PlayStation. Si on est team PlayStation, on est plutôt du côté des Final Fantasy qui ont apporté d'immenses choses au genre... RPG et JRPG, mais si on est dans l'autre team, on a plutôt grandi avec les Mario et les The Legend of Zelda, et moi je suis de cette team-là, et je suis un grand fan et un collectionneur de Zelda, de tout l'univers, de plein de trucs, et comme il y a un nouveau Zelda, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui sort dans pas longtemps, donc le 12 mai, j'ai proposé du coup qu'on parle de ce qui a changé un petit peu cette c'est pas vraiment une nouvelle licence, mais en gros Tears of the Kingdom c'est la suite de Breath of the Wild qui est sorti en 2017 et qui a tout changé en termes de construction de monde et d'univers dans le jeu vidéo. Et depuis, on a plein d'autres jeux et plein d'autres licences qui s'en sont inspirées, et il a donc changé la donne en ce qui concerne les mondes ouverts. Et j'aurais voulu un peu en parler avec vous, débattre sur ce que, pour vous, c'est quoi un bon monde ouvert? Qu'est-ce que c'est un mauvais monde ouvert? Qu'est-ce que Breath of the Wild a apporté au genre du monde ouvert?
On l'a joué dans aussi, peut-être, d'ailleurs, au passage, effectivement.
De quoi?
Si vous l'avez joué, d'ailleurs.
Ouais, après, il y a peut-être pas besoin d'avoir joué à Breath of the Wild pour comprendre ce dont on va parler. Je pense que quand on joue aux jeux vidéo, on a au moins fait un jeu en style monde ouvert. Parce que
non,
maintenant...
mais si on veut évoquer Breath of the Wild, il vaut mieux y avoir joué, c'est ça que je voulais dire. Mais oui. Sinon, mais je suis d'accord avec toi pour les mondes ouverts. C'est mieux quand même, parce que c'est quand même un monde ouvert un peu à part, je trouve, Breath of the Wild. Hein, mais...
bah, ça a été à part quand il est sorti, forcément, parce que c'était un premier... c'est vraiment, c'est pas non plus une révolution.
Il réunissait tout, je trouve, en fait.
Ouais, ça a changé plein de choses et c'est par la suite que ça a vraiment inspiré, etc. Quand il est sorti en 2017, c'était vraiment truc de fou. On s'est vraiment rendu compte de, ah ouais, ça, c'est possible de faire ça. OK. Et ça, c'est vraiment bien. Et les gens se rendent compte que tout le monde adore et que c'est vraiment un plaisir de fou. Et donc, beaucoup d'autres studios de jeux s'en sont inspirés, notamment dans les Assassin's Creed, dans les Far Cry, même s'il y a toujours des formules et des trucs un peu spécifiques. Mais on est sur ce qu'on appelle un game changer. Ça a vraiment changé beaucoup de choses dans l'univers des mondes ouverts, ce Zelda, quand il est sorti. Notamment le fait, donc pour ceux qui n'ont pas joué ou qui ne savent pas trop ce que ça a changé. Parce qu'il existait des mondes ouverts depuis bien longtemps. Oui. Il y a eu plein de jeux en monde ouvert, plein de jeux en bac à sable. Mais quand Breath of the Wild est sorti, en fait, ça a été un petit peu le truc nouveau de pouvoir, dès la sortie du tutoriel, dès la sortie de la première grotte, en gros, dans laquelle on se réveille, on peut choper un bâton et aller finir le jeu et dégommer le boss.
D'accord. Okay.
Et c'est... Alors, bon, c'est un peu difficile, etc., mais c'est possible.
D'accord. Oui, non, c'est intéressant. Ouais, d'accord,
et en fait, ça... le game design, les routes que tu peux emprunter, les montagnes à escalader, les gouffres à... Enfin, bref, toute l'exploration, tout le game design et tout l'environnement, la map, etc., est construite d'une manière où tu as envie d'explorer, où tu as envie d'aller un petit peu farmer, un petit peu améliorer. C'est très, très bien foutu. C'est très, très instinctif, mais... t'es pas obligé du tout.
D'accord.
Et t'es pas, enfin, tu peux vraiment ramasser le premier bâton, la première épée rouillée sur laquelle tu tombes et aller te battre directement et aller finir le jeu. Et t'as besoin de rien d'autre.
Ouais, 70 balles, 10 minutes de jeu, c'est cool.
Voilà. Alors,
c'est toujours dommage, on est d'accord.
Tu vas pas mettre quelques minutes parce que voilà, c'est quand même compliqué.
Très très long.
Mais ouais.
Qu'est-ce que
c'est possible.
Et du coup, oui, alors je reviens à la question que tu posais. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour vous le monde ouvert ? C'est ça que tu nous demandais un peu ?
Bah, qu'est-ce que c'est un bon monde ouvert surtout ?
Voilà, un bon monde ouvert. Ouais.
Bah, je me permets juste d'intervenir. Vas-y. C'est d'abord, il s'agirait de demander qu'est-ce que c'est à vos yeux, parce qu'on a tous un point de vue différent.
Ah bah, c'est ce que je
bah voilà, ça, je te rejoins.
Vas-y. Ouais.
Qu'est-ce que c'est un monde ouvert à vos yeux ? Parce que finalement, on n'a peut-être pas tous la même définition.
Ah ouais, vous n'avez pas tous la même définition du monde ouvert.
Eh ben, c'est pas impossible, je suis d'accord avec elle.
Tu vas voir que, en fait, il y a une faille. C'est qu'en fait, il y a un truc qu'on fait très souvent, une petite distinction qu'on ne fait pas. Et en fait, c'est très différent. Donc, je vous laisse définir pour vous ce que c'est un monde ouvert.
D'accord, ouais, c'est intéressant.
Qu'on confond.
L'autre jour, on en a parlé, on n'était pas tous d'accord.
Mais okay. Allez-y.
Vas-y. Bah bon, du coup pour moi donc Breath of the Wild c'est un des exemples, mais un monde ouvert c'est un jeu où tu peux explorer librement le monde tout simplement. Ouais. Et quand tu commences, t'as plus ou moins une ouverture. Ça se distingue pour moi des jeux à couloir ou des jeux à mission, même s'il y a des jeux à mission qui sont en monde ouvert, notamment GTA V, enfin les GTA, etc. Mais en termes de progression du jeu, pour moi, un monde ouvert, c'est tu peux aller n'importe où dès le début du jeu. Tu peux aller n'importe où.
Ouais.
Alors, dans Breath of the Wild, tu peux finir le jeu dès le début du jeu et tu peux aller faire le dernier boss instant 1, ce qui a voilà, un petit peu révolutionné le truc pour moi. Mais tu peux, par exemple, dans The Witcher, qui est un monde ouvert, tu te lances dans le jeu, tu lances ta partie, tu peux direct traverser tous les champs que tu veux, foncer au galop avec ton cheval et aller à une ville à 10 kilomètres. Enfin, c'est ça pour moi un monde ouvert.
Et j'aimerais poser une question avant que quelqu'un d'autre réponde. Est-ce que vous voyez une différence entre monde ouvert et monde libre ?
Pour moi, parce que j'ai jamais entendu, moi.
Pour moi, un monde ouvert, c'est Star Citizen.
Ouais, ça en fait partie, ouais.
Ouais, ça en fait partie.
Bah, après, moi, je parle pas des MMORPG.
Non, mais je te parle dans l'ensemble du jeu, où tu peux prendre un vaisseau et faire absolument ce que tu veux en arrivant et vivre normalement, tu vois. C'est un jeu où tu peux même discuter librement avec des PNJ, pour moi, un monde ouvert. Un monde ouvert, un jeu, pour moi, ça existe à la limite, pas encore. Tu es toujours plus ou moins drivé dans un jeu, qu'il soit monde ouvert ou pas. Ouais.
Il y aura toujours des scripts qui vont faire que le jeu avance, quoi.
Ouais.
Donc, c'est la différence entre monde ouvert et monde libre, du coup, effectivement. Monde libre, c'est limite bac à sable, quoi. On va dire.
Ouais, voilà, parce que par exemple, Minecraft, du coup, oui, c'est un monde libre, c'est ça
Voilà, c'est ça, exactement, ce que je voulais dire.
D'accord.
Ouais, c'est ce que je voulais souligner.
Moi, de mon point de vue, c'est un synonyme, c'est la même chose, pour moi. C'est mon point de vue, seulement mon point de vue. Pour moi, c'est la même chose. D'ailleurs, Minecraft, c'est le plus grand monde ouvert qui puisse exister, je pense.
Oui.
Puisque c'est des maps procédurales et que tu peux créer des maps qui font l'équivalent de la taille de cette fois la Terre, donc...
Ouais, mais là, monde libre, en fait, on sous-entend. Enfin, c'était plus dans l'optique de dire le monde libre, c'est il te permet de tout faire tout de suite sans aucune contrainte. Donc, c'est un peu passé en mode créateur, quoi. Tu vois. C'est pour ça qu'on le soulignait comme ça. Mais t'as raison. Dans la base, c'est un très grand monde ouvert, tout à fait.
Mais c'est là où je voulais en venir justement. Donc pour moi, un monde ouvert, c'est un monde où en fait donc c'est l'environnement qui n'a pas de limite, c'est-à-dire qui n'a pas de mur invisible, où il n'y a pas de zone de chargement dans dans la progression du jeu. Ça veut dire que tu peux aller d'un point A à un point B par ton propre chemin.
Exactement, genre Oblivion, voilà. Skyrim.
Pour moi, c'est ça un monde ouvert. Même s'il y a à un moment donné un chargement pour aller d'une très grande zone à une autre très grande zone, parce que des fois, il peut y avoir quelques zones de chargement. Des fois, c'est pas possible de pas en avoir du tout. Des fois, c'est possible de pas en avoir du tout. Pour moi, un monde ouvert, c'est vraiment tu choisis le chemin par lequel tu passes.
Ouais, je suis d'accord.
Tout à fait d'accord.
Mais parfois, on confond le monde ouvert avec le côté sandbox.
Bah, c'est
justement
ce
qu'on vient de définir pour être sûr.
Le côté sandbox, en fait, ça s'applique pas du tout à l'environnement, ça s'applique au mode de jeu. Et en fait, c'est plus dans la manière de jouer, c'est ce que décrivait Darge avec Zelda, c'est que le fait d'arriver et de pouvoir décider de prendre ton épée et d'aller directement chasser le boss final, ça, c'est du sandbox. Parce qu'on te met dans le monde et en fait, on t'explique pas. Il n'y a pas de règle sur comment tu décides de jouer la partie ou de créer l'histoire. Ça, c'est du sandbox.
Pas le tout monde à fait. Ouvert, je trouve ça s'applique. Que sandbox, c'est quand même la construction d'un monde aussi. Ça implique,
je suis pas d'accord avec ça. Moi.
Là, je suis pas d'accord.
C'est la définition, en tout cas, on va dire basique du sandbox, si vous voulez. Après, il y a des points de vue qui diffèrent. Vous voulez, c'est la définition basique du sandbox. Et après, le monde ouvert, ça s'applique plutôt, en général, à l'environnement, d'un point de vue plus basique, pour moi.
Okay. C'est-à-dire à l'environnement.
C'est vraiment
la construction de la map, quoi.
Ouais, c'est vraiment propre à la map et à ce qui t'entoure, tu vois.
Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, oui, c'est propre à la map, et bien sûr, la construction de map, c'est pour ça qu'elle est si géniale dans Breath of the Wild, parce qu'elle est vraiment pensée pour que tu puisses faire ton propre chemin, faire ce que tu veux, etc. Par contre, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit un sandbox, parce que pour moi, les jeux à bac à sable, c'est vraiment Roblox, Minecraft, Garry's Mod, ce genre de truc, où tu construis limite des jeux à l'intérieur du jeu. Zelda, c'est quand même un jeu à histoire, tu vois. Moi,
D'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Il y a même la définition, excuse-moi, je te laisse reprendre après, qui nous dit qu'en fait, ça fait principalement appel à la curiosité et à la créativité du joueur. Donc, tu vois, je recoupe ce que tu dis là, sur ce coup-là, je trouve.
Ouais, même si tu peux créer un peu des trucs, des recettes, tu peux un peu faire ta cambouille un peu dans Breath of the Wild, et encore plus dans Tears of the Kingdom, pour ceux qui ont vu les trailers là et qui s'intéressent un peu à ça, on va pouvoir mixer des armes. Enfin bref, ça va être incroyable. Ouais, mais c'est pas un sandbox dans le sens où il y a une histoire quand même. Moi, pour moi, quand je dis les jeux à monde ouvert, je parlais d'Assassin's Creed, je parlais des Far Cry et tout. Pour moi, c'est quand même un jeu à histoire avec des persos, des PNJ importants. Il y a vraiment. Tu vois, des cinématiques, des trucs comme ça, ce qui n'a pas du tout dans Minecraft, par exemple, pour reprendre le truc. Donc, pour moi, je le distingue parce que quand même, dans Zelda, même si tu peux faire ça et t'as en effet plein de possibilités, t'as quand même des cinématiques, t'as quand même une histoire. Quand tu crées un monde dans Minecraft, t'es zéro et t'as aucun tuto, t'as rien. Ouais, alors que dans Zelda, tu arrives, t'as des cinématiques, une histoire, t'as la voix de Zelda qui te guide, qui t'explique des trucs, le premier perso que tu croises, tu peux lui parler ou pas, mais si tu décides de lui parler, il va t'expliquer des trucs. Et voilà, pour moi, je distingue quand même les jeux à histoire.
Moi, je dirais, ça, c'est du monde semi-ouvert, en fait, ce que tu définis un peu, tu vois. C'est ce que j'appelle semi-ouvert. Ouais. En gros, c'est... Non, mais pas forcément tout ce que tu dis, mais le genre de jeu que je vois quand tu parles de ça, c'est plutôt du genre, tu sais, t'as une histoire et t'as des endroits ouverts, mais bon, tu fais pas vraiment ce que tu veux, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais sauf que dans Zelda, non, c'est vraiment...
Je parlais pas de Zelda, forcément. Non, je pensais à d'autres jeux. Quand t'as dit ça, ça m'a fait penser à d'autres jeux. Et je rebondissais sur ça par rapport à des jeux qui sont plutôt en mode, tu vois, pas tout à fait, comme disait, il y a une histoire, tu vois. Toi, tu disais, il y a une histoire. Il y a des jeux où, en fait, il y a une histoire, mais on va te laisser libre pendant, dans un univers, mais bon, comme vous disiez tout à l'heure, il va y avoir une zone de chargement, des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu vas pas être vraiment libre, en fait. Il y aura quand même une histoire qui te pousse à avancer. Et d'ailleurs, tu pourras pas vraiment tout visiter vraiment. Je sais pas comment, si vous avez déjà joué à ce genre de jeu.
Pour moi, quand tu parles de ça, tu vois, c'est, pour moi, c'est des jeux à mission. C'est-à-dire que,
toi, tu les considères comme des jeux à mission.
Ouais, bah en fait, c'est en fait l'histoire, un jeu à histoire en monde ouvert, comme Zelda du coup, ouais, comme Breath of the Wild en tout cas, ne t'empêche pas de finir le jeu et de progresser dans le jeu.
Alors que là, oui, tu as raison. Par contre, dans ce genre de jeu-là, oui.
Tu vois, dans le genre de jeu que tu décris, par exemple, dans GTA, c'est un monde ouvert. Quand tu lances ta partie, t'es direct en mission, mais après la première mission qui fait office de tuto, tu peux aller te balader partout dans la map où tu veux sans restriction. Et par contre, tu vas pas pouvoir finir le jeu. Ce qui va te faire progresser dans le jeu, c'est les missions, les cinématiques et ce que tu vas faire. Alors que dans Zelda, même si t'as des quêtes, même si t'as des trucs à faire pour améliorer ton perso, moins galérer par la suite et tout,
quoi, en fait,
ça va pas du tout t'empêcher de progresser.
Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, c'est ça qui a, c'est ça la grosse différence.
Je crois que t'as raison, effectivement.
Moi, la différence avec ça, ce que je vois, c'est qu'à la fin, il y a un boss final, tu vois. Rien que boss final, moi, ça me dit, c'est pas un monde ouvert.
Mais t'as une fin de jeu. Ah, bah, tu vois, toi, t'as une autre conception du monde ouvert.
Ah ouais, ouais, complètement.
Ah oui, ouais, d'accord, ouais. Parce que du coup, ça.
C'est quoi le monde ouvert pour toi, Didier, du coup, défini,
Ça serait à la limite, il y a un film que je trouve qui le représente bien, le monde ouvert. C'est les mecs, tu sais, ils farment depuis 30 ans, tu sais, et ils sont sur le jeu, ils vivent plus. Je sais plus quel film c'est d'ailleurs. Putain, j'ai oublié le titre.
Ready Player,
Peut-être. Où les mecs, c'est ouvert. C'est comme une vie, comme du RP, comme une vraie vie, quoi.
C'est des jeunes qui vont
jouer. Monde ouvert, c'est pas un jeu. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de...
D'accord. Ouais, alors toi, tu parles de simulateur de vie carrément sur des, sur des MMO.
C'est un monde ouvert.
Moi, je distingue... Alors oui, en effet, ça fait partie des mondes ouverts, mais moi, je distingue aussi, comme je te disais, les MMO. Parce que par exemple, du coup... Si tu vas par là, World of Warcraft, c'est un monde ouvert, carrément, tu vois.
Bah, Elder Scrolls Online, c'est un monde ouvert.
C'est du MMO, effectivement. Mm.
Alors, tu vois, et dans ce cas-là, oui, c'est infini, parce que s'il y a des boss, il y a des histoires, des quêtes, des missions, etc., pour progresser en termes de level, c'est infini. Mais je comprends. Mais pour moi, c'est une autre catégorie, tu vois.
Oui, je pense qu'il vaut mieux sortir les MMO de la... de la définition du monde ouvert, parce que vraiment,
C'est une autre manière de concevoir ton jeu. C'est une autre manière de concevoir tes environnements, ta map, tes missions et ton histoire, en fait. C'est complètement un autre but.
Mais c'est fait que pour que tu n'aies jamais envie de partir du jeu, en fait. Donc,
Te rendre addictif, quoi.
Voilà, il y a tout un truc qui est fait pour que tu n'aies jamais envie de partir du jeu.
C'est
fait dans ce sens, c'est pas tout à fait
la même... Voilà. Ouais, excuse-moi, pardon, je t'en prie.
Vas-y.
C'est pas du tout la même optique, c'est vrai, je suis d'accord que les MMO peuvent pas être targués de monde ouvert. Je trouve que c'est pas la même définition parce que c'est pas la même utilisation de l'environnement. Je suis d'accord.
Même si techniquement, en effet, ce sont des mondes ouverts, c'est pas ce que j'appelle un jeu à monde ouvert vraiment, tu vois.
Tu vois, world pour moi, c'est pas ça non plus. Ouais, ok. Mais je comprends. Oui, pardon.
Assassin's Creed, du moment où t'as des quêtes, moi je m'en fous, je rebondis.
Vas-y.
Assassin's Creed, du moment où tu me poses des quêtes pour avancer et un boss final, c'est vrai que je peux visiter partout, mais c'est pas spécialement ouvert. C'est pas.
Ok, alors, toi, ce qui t'appelle ouvert, c'est vraiment un truc où t'es totalement libre, où t'as rien à faire vraiment, quoi.
C'est pour ça que je voulais faire le distinguo, parce que je savais que Didier avait plutôt cette vision.
Tu as des missions, mais pas pour finir le jeu, pour te faire avancer toi, pour te faire évoluer toi, tu vois. Pour moi, c'est plus ça, un monde ouvert.
Tu vois, dans par exemple, on va parler de Hogwarts Legacy. J'ai fini le jeu. Il y a un boss final.
Ouais.
Il y a une histoire. Il y a un boss final. Or, c'est un monde ouvert. J'ai fini le boss final. Je peux librement faire absolument tout ce que je veux dans le jeu. Il n'est pas terminé en soi. Je dis j'ai fini le jeu parce que moi, j'estime que je l'ai fini. Mmh. Mais je pourrais très bien y jouer indéfiniment si j'ai envie.
Tout à fait.
C'est pas parce que j'ai battu le boss final que le jeu est en soi terminé.
Ouais.
Il y a une histoire.
Il n'y a plus d'objectif.
Mais j'ai pas fini le jeu. Si, ouais, bah si, pas... en fait, ah, si. Ils ont créé encore des objectifs autour de la map. Tu les fais, tu les fais, tu les fais pas, tu les fais pas. Tu vois, c'est à toi de décider. C'est, mmh. c'est exactement comme toi, t'as envie. Alors, est-ce que là, on pourrait dire qu'il y a un mélange de monde ouvert et de, je sais pas, sandbox, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont fait un mix des deux? Est-ce qu'ils essaient ouais. de faire des nouvelles choses? Mais en tout mmh. cas, il y a une petite histoire principale. Certes, une fois que tu l'as fini, tu fais absolument ce que tu veux.
Alors, je suis oui. assez d'accord. Pour avoir joué et fini Hogwarts Legacy en termes d'histoire et en termes de complétion de tout ce qu'il y a à faire sur la map à 100%, en effet, tu es libre à la fin, à la toute fin, quand tu as tout fini d'explorer et tout. Mais un peu comme dans Red Dead, à la fin, tu as fini l'histoire, mais tu as encore plein de ouais. trucs à faire sur la map et ils te mmh. laissent un peu libre.
Ça, c'est mais pas, sommairement, c'est fini, quoi, en fait.
Ouais, c'est pas vraiment nouveau. Et ça, ça a été aussi introduit par un jeu Zelda, à savoir The Wind Waker. Mais encore mm. une fois, bref, voilà, quoi. À la fin de The Wind Waker, avant... Alors bon, là, c'était un peu spécial, mais avant le boss final, il te disait, est-ce que t'as fini à faire tout ce que t'avais à faire dans le monde ? Sinon, vas-y, je te laisse libre. Et à partir de là, tu fais ce que tu veux dans tout le monde et tu peux faire tous les trucs, toutes les quêtes principales, tout le truc, te balader et tout. Une fois que tu as décidé que tu en avais marre après 1000 heures, si tu veux, bah là, tu peux aller finir le jeu avec le boss final. Mais ouais, dans Hogwarts, maintenant, dans beaucoup de jeux, ils font ça. Pareil, j'ai joué à Chia, un jeu néo-calédonien. Pareil, un jeu un peu à complétion avec une histoire et tout et un monde ouvert. Et à la fin, pareil, tu es laissé libre... T'es laissé libre de vagabonder un petit peu dans la map. Et c'est... Là, maintenant, j'ai même l'impression que c'est un peu admis dans quasiment ouais, ouais. tous les jeux à monde ouvert parce que bah, c'est un bah, peu la norme.
Ça va devenir obligatoire. Ça va devenir une norme.
En fait. Ouais, c'est bah, devenu un peu une norme.
De
ouais.
toute façon, aujourd'hui, j'ai l'impression que de toute façon, c'est très difficile de sortir un jeu sans qu'il soit à monde ouvert. En tout cas, c'est risqué, en fait. Hein.
Bah, c'est risqué, mais alors là, on peut débattre aussi. Par exemple, les God of War, qui sont des jeux pas trop à monde ouvert, même quasiment pas du tout, je crois. En tout cas, le 1 que j'ai fait, j'ai pas fait le 2, mais je pense pas qu'il soit plus à monde ouvert. C'est basiquement ce qu'on appelle des jeux à couloir. Est-ce qu'il a moins plu ? Est-ce qu'il a moins marché ? Je suis pas sûr, hein. Je sais pas.
Il y a des jeux qui marchent encore bien.
C'est que c'est risqué d'un point de vue marketing. Il faut que ça soit bien ficelé parce que c'est prendre un risque de sortir un jeu aujourd'hui qui n'est pas qui ne donne pas la possibilité aux joueurs d'être libres, de voir le monde en 3D, etc. Aujourd'hui, ils ont tellement l'habitude de pouvoir se promener, d'avoir la liberté des actions, etc., que c'est très risqué de sortir un jeu qui n'en donne pas la possibilité. C'est d'ailleurs pour ça que certains jeux, dont on ne va pas citer le nom, prennent beaucoup de temps en développement.
Hein, Star Citizen ? Hein, t'es là ? Ah bah sinon, je t'en prie, prends un siège.
Il est gratos jusqu'au 20, là, je crois, non ?
Ah bah tiens, on devrait faire un tour pour tester. Ouais, on va pas redébattre sur tout ce que tu as dit parce que déjà on commence à être limite dans le time.
Pour moi.
Ah non, là, Didier. Je suis obligé de rebondir, par contre.
Non, mais vas-y, vas-y.
Moi, je vais rebondir sur ce que vous avez dit.
Ouais,
les, je pense que les jeux à monde ouvert et les jeux à couloir, c'est deux philosophies différentes. Tu ouvres pas le jeu avec la même idée, tu vois.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est là où, mais même au sein des jeux à monde ouvert, il y a différentes philosophies parce que comme l'a dit Fanny, ils ont vu que ça avait vachement plu et vachement marché dans Breath of the Wild, et du coup, tous les Assassin's Creed qui ont suivi, tous les Far Cry, etc. C'était full monde ouvert. Il y a eu beaucoup de critiques sur ces jeux-là, justement, parce que il y a eu beaucoup de critiques, même sur Hogwarts Legacy et sur d'autres que j'ai oublié, bref, il y en a plein, qui sont pris des critiques en mode, oui, vous faites un monde ouvert juste pour dire, regardez, c'est un jeu en monde ouvert, alors que le monde est vide. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça crée des mondes vides, où c'est un peu artificiel, c'est pas vraiment rempli, que ça manque de vie, que c'est pas très bien fait, etc. Je suis pas d'accord en ce qui concerne Hogwarts Legacy, mais je suis d'accord en ce qui concerne d'autres jeux, notamment Assassin's Creed Odyssey avec les milliards de points d'interrogation sur la map qui ne font jamais avancer. Enfin bref, il y a plein de trucs qui en dérivent et en fait c'est des dérives qui rendent le truc un peu moins cool.
Ouais, il y a des dérives.
Et ça c'est beaucoup critiqué, tu vois.
Ouais, mais c'est comme d'habitude, tu sais, ils font un truc, après ils t'attendent autour. Et il y en a un qui va le mettre le doigt sur autre chose, et puis bon, ils vont graviter après autour de ces idées-là.
Ouais, ouais, bien sûr, mais je veux dire, ça n'a pas amené que des bonnes choses.
Non,
c'est pas. Non, mais c'était pour dire, c'était pour répondre un peu à Fanny de. Je suis pas sûr que tous les studios se disent, ok, c'est hyper risqué si on fait pas un monde ouvert.
Tu vois, je suis pas sûr. Bon, voilà.
Ouais, en règle générale, il y a eu une mode, bien sûr, mais je suis pas sûr que c'était la philosophie de. Je pense que c'est plus un effet de mode et un effet de. Les gens ont adoré ce genre de truc, on va leur filer. Et sauf que bon bah ils savent pas tous aussi bien faire un jeu que les The Legend of Zelda, donc bah oui ça crée des trucs un peu chelous.
De toute façon ça a ses inconvénients hein, parce que quand on fait un monde ouvert en tant que développeur, game designer, tout ça, après derrière il faut l'agrémenter le monde hein, pour que le joueur puisse faire quelque chose là-dedans, tu vois, faut pas qu'il soit perdu hein, c'est chaud.
Ouais, bien sûr. Non, c'est derrière, clair. Hein, donc, et il y en a
tous les studios ne savent pas le faire. Hein.
Non, c'est clair. Et il y en a plein qui se sont foirés là-dessus. Hein. Et c'est justement, ça fait partie du débat, quoi. Est-ce que justement un monde, pour être bien apprécié et passer des heures dessus aujourd'hui, doit forcément être en monde ouvert? Par exemple, pour moi, les Final Fantasy, c'est pas vraiment du monde ouvert, même si tu peux te balader un peu sur la map et tout, une fois que t'es posé. Bon, c'est plus des couloirs, c'est plus des trucs. D'ailleurs, dans Hogwarts Legacy, même s'il y a une grande map, il y a une grosse partie monde ouvert, les quêtes et les missions, c'est pas du tout des mondes ouverts, tu vois. C'est que des trucs à couloirs dans des espèces de donjons et tout, tu vois. Et je trouve que c'est un peu un mix qui fonctionne plutôt bien.
Oui, j'aime bien ce genre de mix, d'ailleurs. Moi aussi,
Ils ont fait un mélange assez space, en fait. Mais ça, c'est pas mal.
C'est assez digeste apparemment ce qu'ils ont fait. Ils ont bien cuisiné. Hein,
moi, j'ai adoré le jeu et ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu, c'est justement ce mix avec du housing. Tu parlais de sandbox. C'est vrai qu'il y a un petit côté. Tu peux fabriquer toutes tes potions. Tu peux faire. Tu peux faire ta salle sur demande comme tu veux. Tu peux faire vraiment. T'as vraiment une créativité. ta créativité un peu mise à l'épreuve dans Hogwarts Legacy et c'est très très plaisant, je pense.
Ouais, enfin, t'es limite dans Animal Crossing.
Oui, voilà. Les animaux, c'est trop cool. C'est ce qu'on appelle du housing et de la gestion. Et ils ont intégré ça dans le jeu. Ils l'ont trop bien fait.
J'allais dire, est-ce que vous voulez qu'on conclue avant, voilà, c'est tout à fait. Merci. Merci, Darge.
On peut conclure en disant que.
Oui.
Du coup, pour conclure, moi, j'aimerais dire que The Legend of Zelda, dans quasiment chacun de leurs jeux, ils font une petite révolution, ils mettent un gros coup de pied, etc. Là, celui qui va sortir, je pense, va changer beaucoup de choses en termes de création, en tout cas de ce qu'on a vu des trailers. Et c'est très bien d'avoir des petites révolutions comme ça, parce que ça crée... Enfin, en fait, ça oblige les autres et la concurrence à repenser un peu leur jeu, à prendre du recul sur la philosophie qu'ils mettent dans leur jeu, etc. Ça donne des trucs trop bien et ça donne des trucs moins bien. Ça, c'est une bref.
Moi, j'aime bien ce 5 de base, mais apparemment, Valhalla fait chier tout. Un léger fun fact quitter sur ce sujet, avant de conclure sur ce sujet, c'est apparemment le premier jeu en monde ouvert, ce serait Jet Rocket, qui est sorti en 70.
Ouais, après, par contre, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux.
Merci à Fanny pour l'information.
Il y a eu.
de rien.
Après, un des plus grands jeux aussi, d'il y a longtemps, c'est Skyrim. Un des premiers mondes ouverts.
Oblivion
que j'ai
avant.
Exploré, moi,
j'ai fait d'ailleurs. J'avais adoré les deux. Hein, les deux sont superbes.
Et c'est vrai que Oblivion aussi. Mais en fait, moi, j'ai découvert Skyrim et j'ai découvert la licence avec Skyrim parce que, immense bombe dans l'univers des jeux vidéo. Et après, j'ai fait Oblivion. C'est vrai que c'était kiffant. Bon, c'était... Maintenant, quand je les vois, je dis pourquoi j'ai joué à ça. C'est vraiment trop moche. Et je déteste...
Je m'en rappelle.
Je déteste ces graphismes. Oblivion, genre Morrowind et tout, là, le chara-design,
c'est
là,
horrible,
les persos et
tout,
les elfes, je trouve dégueulasse.
Ouais, je suis d'accord.
C'était un petit peu plus propre,
effectivement, quand même.
Et heureusement, il y a eu une communauté de fous qui a bossé sur 3 milliards de mods. C'est un des jeux les plus modés du monde. Et c'est tant mieux, et ça a amélioré plein de trucs. Et maintenant, si tu veux jouer à Skyrim, tu peux jouer avec des putains de graphismes reshade en 4K, avec des putains de persos trop fous.
C'est le fils de Didier qui pourrait nous en parler de ça, parce qu'il a joué à tous les mods possibles, je crois, Liam. Ça, hein, Didier.
Ah ouais,
j'en ai plein PC de mods de Skyrim.
Mais oui, oui, bien sûr, Zelda, je ne dis pas que Zelda Breath of the Wild a inventé les mondes ouverts. D'ailleurs, les licences de The Legend of Zelda, même à l'époque, même les jeux en pixel art et tout, c'était un peu le principe de monde, petit monde ouvert, map, grande map, plus les donjons. Et ils ont gardé ça dans l'exploration un peu quand ils ont fait les jeux en 3D. Mais non, vraiment, Breath of the Wild, c'est vraiment la philosophie qui a changé. C'est vraiment la façon de penser le monde et de construire l'environnement qui a tout changé. Et c'est ça la révolution.
Et ben, en tout cas, on a hâte de voir ce que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom va donner.
Ouais, j'ai tout précommandé là, j'ai pris tous les trucs collector là, j'ai tout. Mais je suis obligé. En fait, je voulais pas. Mais en fait, à la base, je voulais pas.
Mon Dieu, c'est contre mon gré, aidez-moi. C'est ça que tu vas me vendre ?
Non, mais ils vont sortir des petits trucs, il va y avoir un amiibo et tout, puis voilà, ça va s'arrêter là. Boum, manette collector, pochette collector, Switch collector.
Je l'avais bien la Switch collector aussi. Il y a combien le pack ?
Il est à 350 euros.
Je vais l'acheter.
Et c'est la Switch version OLED.
Je vais aller faire un kiff.
Franchement, elle est magnifique. Moi, j'ai tout précommandé là. Et c'est vraiment trop beau. Et en tant que collectionneur de plein de trucs de The Legend of Zelda, j'étais obligé. Je pouvais pas. Je peux pas.
Tout ça pour Zelda.
Ouais, Zelda, c'est vieux quand même hein, comme groupe. Hein, ça abuse, hein, les gars. Bon, alors, on va enchaîner avec le sujet principal hein, qui nous intéresse quand même autant que les mondes ouverts d'ailleurs, hein, si ce n'est plus. Mais qui va nous intéresser maintenant, ni plus ni moins d'ailleurs, si tu préfères. Et on va arriver sur le sujet qui va nous intéresser maintenant, donc on va parler de cette fameuse pétition des influenceurs. Donc alors je rappelle que l'histoire a démarré le 8 janvier avec un appel au projet de loi de Bruno Le Maire qui avait partagé tout ça avec les influenceurs. Et puis quand le projet a été proposé à l'Assemblée, il y a eu plein de changements proposés par des diverses parties. Et le 27 mars, il fait un tweet et dans la journée même, une tribune du JDD sort pour défendre de façon très maladroite le droit des influenceurs. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça ?
Sujet sensible, là, c'est vraiment.
C'est marrant, vous donnez-moi la parole de tout à l'heure.
Bah, forcément. Non, mais parce que attends, là, c'est très.
Ah oui, on va rentrer dans le détail. Hein, mais... Je vais résumer, là. Hein, on va rentrer dans le détail.
Parce que d'accord avec quoi ? D'accord avec le projet de loi ? D'accord avec la tribune ?
Moi, j'ai pas dit si vous étiez d'accord. Enfin, j'ai dit quel est votre point de vue sur tout ça. Sachant que derrière, on va parler aussi, on va évoquer ce que Squeezie a posté ou comment ils sont défendus en expliquant qu'effectivement, leur nom s'était retrouvé par erreur sur cette liste. Donc, si quelqu'un veut resituer un petit peu plus les choses dans le détail, n'hésitez pas. Moi, j'ai juste essayé d'être évasif et voilà.
Ouais, ok. En gros, du coup, en gros, pour expliquer, il y a eu un gros bad buzz, notamment sur Squeezie, parce que cette tribune, elle a été faite très maladroitement, elle est très mal écrite et elle dit un peu n'importe quoi. Mais surtout, c'est une liste. Enfin, en fait, cette tribune, elle a dit voilà, il y a 150 influenceurs qui ont signé notre truc, ils nous soutiennent et tout. Et la plupart, en fait, n'étaient soit pas au courant, soit n'avait pas lu le truc. Donc là, il y a eu un gros bad buzz, des gens en mode « Comment ça, les influenceurs, ils lisent pas ce qu'on leur met sous le nez c'est un peu bizarre. » Donc là, il y a eu un gros bad buzz et l'explication, c'est que le projet de loi d'encadrer et de un peu mieux
les influenceurs.
De un peu mieux encadrer tout ce qui est législation, règles et tout ça quand on est dans le monde de l'influence et de la création de contenu et quand on est un influenceur ou influenceuse, c'est intéressant, notamment parce qu'il y a plein de dérives, plein de d'OP cachés, de partenariats, d'arnaques, de trucs très très limites mis en avant, notamment. Enfin bref, de la chirurgie esthétique, des pilules contre le cancer complètement what the fuck. Enfin bref, des produits miracles, arnaques ou des trucs complotistes un peu chelous, magiques. Bref, donc il y a plein de dérives là-dessus, notamment des fameux influenceurs qui sont à Dubaï en évasion. Enfin bref, pardon.
Oui, en optimisation fiscale. Oui, bien sûr.
Voilà,
on a bien compris.
Donc.
Oui.
C'est cette loi, elle est intéressante et c'est très très bien de vouloir faire ça. Mais comme ils y pigent rien, ils ont demandé du coup aux gens qui sont dans le milieu de les aider. Donc même Squeezie a eu des rendez-vous un rendez-vous en tout cas avec Bruno Le Maire. Enfin, ils ont essayé de faire les choses bien. Sauf que il y en a que deux ou trois qui ont essayé de faire ces choses bien. Et quand ils ont proposé la loi, en fait, tous les autres députés, tous les autres gens qui ont vu la loi et tout, ils ont rajouté plein de trucs. Ils ont posé plein d'autres questions et ils ont amené plein d'autres débats sur le sujet. Avec des dérives et des trucs vraiment pas ouf. Parce qu'ils n'hibitent rien, c'est pas vraiment leur
faute. Oui, mais ils ont quand même fait des propositions ubuesques, effectivement. Je comprends qu'ils aient peut-être un peu paniqué, les autres. Mais ils ont paniqué vite.
Le truc le plus choquant, c'est qu'ils ont proposé un label pour mettre en avant des streamers. C'est-à-dire que t'aurais un label, et si t'as ce label, tu peux être plus mis en avant que d'autres. Et sauf que pour obtenir ce label, enfin bref, bon.
Non, mais c'est pas possible, quoi.
C'est intelligent, vous comprenez les dérives que ça peut amener. Donc, en réponse à tous ces amendements, donc les amendements, c'est des petits textes rajoutés à la loi originale, donc rajoutés au texte principal, quoi, de base.
C'est ça qui a provoqué le problème, effectivement.
Ouais, voilà. En réponse à toutes ces petits bouts de merde rajoutés au truc bien, il y a eu une tribune, donc une grosse agence de gestion d'influenceurs et d'influenceuses, etc. Lumic, voilà. Ils ont fait une tribune pour dire: on n'est pas d'accord, ça. Alors, c'est vraiment pas ouf, et c'est pas cool, et il faut pas.
Faut préciser
pas
que c'est le syndicat donc qui regroupe toutes les productions d'influenceurs, donc tous ceux qui font travaillent pour les influenceurs sont souvent sur ce syndicat.
C'est l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu.
Exactement, merci.
Merci beaucoup pour les précisions. Et donc cette tribune, eh bien, elle vient dénoncer un peu tout ça. Et quand on les met sous le nez des agents et des influenceurs et des agents, d'influenceurs et influenceuses, bah forcément, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent, bah oui, c'est vrai, on est d'accord que c'est un peu de la merde là, tous leurs amendements, et c'est, c'est un peu chelou, et on n'est pas trop d'accord pour avoir un label, pour avoir d'autres trucs un peu chelous, quoi.
Ils ont pris peur, quoi, on va dire.
Ouais, ils ont pris un peu peur, et à raison.
S'il y avait tout ce qu'ils proposaient qui passait, c'était chaud quand même, hein.
Sauf que cette tribune, elle est très mal écrite.
Elle est très maladroite.
Elle est très mal foutue. Elle est très maladroite, que ce soit dans sa forme ou dans le fond. Et donc, quand ils ont sorti cette tribune en disant, voilà, il y a plein d'influenceuses et d'influenceurs qui sont d'accord avec nous, qui l'ont co-signé et tout, ça l'a mis vraiment mal. Et la plupart pour se défendre de ça, la plupart des influenceurs et des influenceuses ont répondu juste, je l'ai pas lu.
Ouais, moi j'ai validé tacitement ce que mon manager m'a envoyé, quoi, en gros. Hein, c'est ce que dit Squeezie, quasiment. Hein.
C'est ce que dit Squeezie, c'est ce qu'ils ont dit plein d'autres, évidemment. Et alors, il y en a qui l'avaient lu et qui ont quand même signé parce que ils étaient d'accord sur. Parce que, en fait, de base, c'est un bon truc, cette tribune. Enfin, c'est un bon truc de s'opposer à tous les petits amendements et tous les petits trucs de merde faits par des gens qui n'hibitent rien. Et c'est bien, sauf que. Il aurait fallu mieux lire, il aurait fallu mieux s'organiser. Tous les 150 influenceurs, dont Squeezie, pour moi, auraient dû peut-être se réunir pour discuter de ce qu'il fallait mettre dans cette tribune, dans cette...
On comprend la démarche, on comprend ce qu'ils ont voulu faire, mais le message s'est retourné contre eux parce que c'est très mal fait, très mal écrit. Finalement, le message les dessert tout simplement parce que c'est fait précipitamment, complètement précipitamment.
C'est exactement ça.
Je te laisse reprendre après. Et en plus, la tribune, elle part dans un délire où en fait, ça part plus en protection des droits. Et on comprend qu'on a l'impression qu'ils veulent protéger ceux qui sont à Dubaï, d'ailleurs, à travers ça. Donc c'est ça très très maladroit. Ouais. Vas-y, excuse-moi, je t'en prie.
Mais il y a vraiment cette tribune, elle est vraiment très mal faite et très mal écrite et bref.
Ce qui est d'ailleurs totalement, un peu contradictoire. On comprend qu'ils veulent protéger les gens à Dubaï, etc. Ce qui est d'ailleurs complètement contradictoire parce que dans les critères pour rejoindre Lumic, en fait, on doit être domicilié, travailler et payer ses impôts en France pour rejoindre l'UMIC. Ah oui, donc, c'est totalement contraire.
Mais c'est pour ça que c'est maladroit.
C'est pour ça que c'est très mal fait.
On comprend quelque chose qui ne pourrait
pas. Parce que les critères mêmes de l'UMIC font que les influenceurs à Dubaï, ils restent vraiment dans leur truc. Ils ne sont même pas concernés par ça parce qu'on ne les protège pas.
Clairement.
Enfin, ils sont vraiment pas à protéger. Eux, ouais. c'est vraiment. Ils ont tort, en tous les cas. Donc,
bah, ils vont quand même être régulés et concernés par le projet de loi, vu qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouveaux trucs qui vont faire que les influenceurs à l'étranger doivent avoir un représentant.
C'est ce qui est bien d'ailleurs. Hein.
En France.
C'est ce qui est bien.
Oui, exactement.
Ouais, mais vraiment, cette loi, elle est trop bien de base. Sauf que.
Oui,
voilà,
non, mais il y a eu une incompréhension générale et du coup, tu voulais continuer là-dessus, je crois.
Oui, mais moi je voulais surtout dire, ça a mis en lumière le fait que, bah, en fait, des influenceurs aussi importants, et enfin importants dans le sens, il a une énorme communauté, il est très écouté, etc. Ça a mis en lumière que beaucoup d'influenceurs et de gros influenceurs et de grosses influenceuses n'ont pas lu.
Oui, c'est honteux.
Et n'ont pas donc le bashing un peu de Squeezie est venu de là. Hein.
Mais c'est honteux, hein, je trouve, de ne pas avoir lu.
D'avoir dit, écoutez, j'ai aucune excuse, je l'ai pas lu, j'aurais dû être beaucoup plus consciencieux et tout. Il le dit, il s'en excuse et voilà, il a l'habitude de déléguer ça à son agent en qui il a confiance. Je peux le comprendre, mais ça a mis le truc en lumière de. Peut-être faut peut-être lire.
Voilà, quand même, lisez les petites lignes, hein, quand même, hein, messieurs les influenceurs.
Tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'en tant qu'influenceurs, comme leur nom l'indique, qu'ils influencent pas mal de gens, même si ça me paraît aberrant, quoi. Qu'on arrive à influencer des gens parce que tu passes sur Internet. Mais bon, c'est un autre débat. Mais c'est que le mec,
clairement,
en fait,
intéresse-toi à ta cause et puis lis quand on te dit il y a quelque chose qui va paraître demain, tu vois. Voilà.
Tu
influences
ça
déjà. Au moins, quoi.
Pour moi, tu influences des gens, tu as une responsabilité vis-à-vis de ces gens.
Effectivement.
Mais...
Et fais ton travail de manager, de patron et tout. Sache que tu lis, sache que tu signes.
Parce qu'un patron d'entreprise qui se gourre dans les petites lignes, il va tout perdre. Hein. Enfin, je veux dire, là. Non, mais c'est chaud à défendre comme point de vue. Hein.
Quand t'es à ton compte, si tu commences à signer tout ce qui vient et dire amen à tout ce qui arrive, t'es mort, quoi. Tu vois,
je pense pas que c'est ça non plus, mais en fait, bon, pour sans vouloir vraiment défendre Squeezie, en fait, pour détailler un peu plus, de ce que j'ai compris en tout cas, il était en train de travailler, il a même eu, avant toute cette merde, il a même eu un rendez-vous. Avec Bruno Le Maire, justement, parce que c'est un créateur de contenu giga, etc.
La loi
c'est pas qu'il s'intéresse pas à ça, c'est pas qu'il s'intéresse pas à sa cause.
Non, du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est que juste à un moment ou à un autre, tu as des responsabilités, il faut faire ton travail de base.
Ouais,
du moment
où tu apposes
ta signature, après, il a consenti peut-être la loi de Bruno Le Maire, mais il n'a pas consenti la loi des autres. Quatre-vingtenaires là qui ont mis leurs amendements de merde.
Bien sûr,
lui-même il le reconnaît, hein. Lui-même il le reconnaît qu'il a pas pris ses responsabilités à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on va pas plus lui taper sur les doigts. Je pense qu'il le sait. Et voilà, c'est juste ça son erreur, et l'erreur, je pense, de la plupart de ceux qui se sont désolidarisés de tout ça, c'est qu'en fait leur agent leur a dit ça va paraître ça au cours d'un texto très court en mode avec une pièce jointe. Eux, ils ont l'habitude de recevoir ça. Ils ont dû répondre un simple OK DAC.
Charte de confidentialité.
Ils
n'ont
pas
lu.
Terminé. Le lendemain, c'est paru. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que dans la parution, ils allaient être signataires de la tribune. En fait, c'est ça qu'ils n'avaient pas compris.
On est d'accord. Je pense que le problème est là. C'est pas un drame en soi, mais ça a fait beaucoup de bruit quand même. C'était important d'en parler, je pense quand même, parce que c'est.
Mais non, mais cette histoire. Tu vois, faudrait que des affaires-là fassent jurisprudence.
Oui.
J'espère que ça leur servira de leçon et qu'ils ne seront plus bernés la prochaine fois, parce que peut-être ni plus ni moins un tour dans le tourlot que de quelqu'un. Il y en a un qui a dit, bon, de toute façon, ils ont répondu au mail, ils sont OK.
Ça on saura
pas sûr non plus.
Pas sûr non plus.
T'es pas des embrouilleurs à ce point-là.
Non, mais ils ont pas signé, tu vois.
Le complotiste.
Pour avoir un gros nom, il y en a qui sont prêts à faire de grandes choses. C'est...
Ouais, mais là, c'est vraiment des agences, des syndicats. Enfin, c'est pas. Là, je pense pas que l'histoire soit quelqu'un qui veut faire un buzz ou un bad buzz et qui veut faire parler de lui. Non, ça a mis en lumière un des problèmes dans ce milieu qui est, qui délègue, qui ont des agents, des managers et tout, qui disent pas forcément tout ce qu'on leur met sous le nez, etc. Et t'as raison, le positif, c'est que ça leur servira de leçon, et maintenant, ça sera beaucoup mieux fait. En tout cas, on
j'espère que ça va aider.
Ça confirme juste le fait que ça doit être mieux encadré et que c'est pour le mieux, finalement, que tout ça arrive. Voilà. C'est tout. Par contre, il y a un truc dont on doit quand même, enfin, il y a un truc qu'on doit se dire quand même, c'est que Bruno Le Maire, il a fait son appel le 8 janvier en demandant donc son appel citoyen pour faire la loi au mieux, qu'il l'a présenté à l'Assemblée nationale et qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils y connaissent rien du tout. Et voilà comment ça se passe après.
C'est un peu honteux.
Mince, quoi.
Ça aussi, c'est lamentable.
C'est ce que j'allais dire. Tu vois, ça met en exergue le problème des nouvelles technologies.
Bah surtout des législateurs qui sont pas au fait des nouveautés et qui comprennent pas trop le monde qui les entoure, en fait. Hein.
Où on se retrouve avec des nouvelles technologies, des nouvelles possibilités, des influenceurs, mais tu fais voter par des lois, par des mecs qui ont à peine Internet sur leur téléphone, qui jouent à Candy Crush, tu vois.
Allez.
T'imagines que le gars s'est fait chier pendant 3 mois pour s'approcher au plus du métier, pour que ça soit équitable pour tout le monde. Il arrive et présente ça à une assemblée qui change tout parce qu'ils y connaissent rien. C'est quand même grave.
Ça, c'est triste.
Mais le mec, il connaît Internet à l'assemblée parce que son fils ou son petit-fils, il joue à Fortnite. Ça
m'a dit ils ont pris des infos vite fait du style « Ah ouais, bah vas-y, demande-leur un label.
» Et puis, de toute façon, le label, c'est très français. Le label rouge, éco-certifié, t'en veux du label en France.
Est-ce que vous êtes...
Calario, ils adorent ça.
Est-ce que vous êtes en train de dire que peut-être en France, les lois et les projets de loi sont votés, décidés par des gens qui ne sont pas concernés et qui n'en connaissent rien?
Quoi? Mais bien sûr que nous disons cela. Casus s'engage sur la qualité... Ah non, pardon.
Bien sûr.
À un moment, toi... T'es pas des RH, personne vient te voir si tu dois virer le mec ou pas, le mec il fait son boulot, tu vois. À des moments, on demande à des gens à un niveau qui sont incompétents de prendre des lois pour des gens qui sont compétents, tu vois ce que je veux dire?
Mais parce que notre gouvernement fonctionne comme ça, c'est des vieux connards pas concernés qui décident
mais
pour
voilà, c'est ça qui est lamentable, monsieur, voilà.
Il y a quand même un grave problème, hein.
Non, mais il y a un grave problème.
Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, il y a un souci de compréhension du monde qui les entoure. Je pense que c'est ils sont dans la matrice encore, hein, il y a un problème, hein.
Tout le monde dans la rue, ça passera pas.
Il faudrait...
Tu vois, ils font des amendements sur des préjugés, sur des choses qu'ils pensent depuis genre 20 ans. Enfin, c'est vraiment... C'est catastrophique.
On
tu peux pas...
dans les années 50 avec la télé, tu sais.
Macron démission.
Ça y est, on l'a perdu.
Nos passarades. Ouais, pardon.
Allez, notre toujours le point levé. Allez, on y va. On s'engage. Casus s'engage sur la qualité.
Faites des grèves générales, putain.
Mais non, mais on arrive à des moments de notre vie où il y a des décisions à prendre, mais comme ils les prennent tous depuis 20 ans, les mêmes décisions, c'est les mêmes décisionnaires, et ben à la sortie, ça ne bougera pas. C'est ça le souci.
Non, mais à mon avis, il faut cramer. Hein.
Okay, changer le gouvernement.
Non, il faudrait changer tout. Il faut tout changer.
Ouais.
Oui,
il faut changer le mobilier pour commencer, parce qu'il est vraiment... c'est chaud, quoi.
6e République, en marche, pardon.
Je suis obligé de censurer, hein, excusez-moi. Allô Manu ? Oui Manu, désolé, vraiment ça a dégénéré, je n'ai rien pu faire. Je recadre. Oui, alors, allez-y.
Pour moi, il faut arrêter de mettre Roger, technicien de surface, ministre de l'informatique, tu vois.
Oui, c'est... Oui,
alors,
oui.
Ouais, non, c'est pas ça qui
faut
se passe.
Faut pas non plus déconner, quoi.
Là, c'est
connard tu vois, moi, je pensais que c'était Henri qui savait pas faire, mais qui était super bien traité, bien éduqué, et qui dormait, tu vois, tous les matins, et qui mettait sa carte et qui repartait chez lui à 4h d'après-midi.
C'est des connards de Bourges qui décident pour nous, hein. C'est pas le technicien de surface, t'inquiète.
Ouais,
hein.
C'est les.
Oh, bref, pardon.
Enfin bon.
Le technicien de surface, tu dis comment nettoyer son sol, il va te dire. Il y a une législation internet, il va pas te le dire, il peut pas, c'est pas possible.
Oui.
Oui, et puis des connards de bourgeois, encore moins. Donc oui, il doit balayer.
Voilà, je pense que c'est parti pour la révolution. Écoutez, moi, je me désolidarise de tout ça et je vous balance.
Non, ne faisons pas généralité, messieurs.
Après, il y en a.
Ouais, voilà, faire de généralité. Ouais. On va tout cramer.
Bon, mais quand même, terminons. Voilà. Enfin, disons quelque chose de positif.
Ah bon ?
C'est que cette loi, elle fait un truc bien. Ah. Non, mais elle fait un truc bien. Elle définit juridiquement le métier d'influenceur. Et
voilà,
ça, c'est bien.
La loi de Le Maire, elle se suffit à elle-même. elle passe telle quelle.
Oui, mais c'est toujours les mecs qui viennent mettre leur palus sur des trucs qu'ils connaissent pas et qui veulent dire, regardez, nous, on a mis un truc en plus et tout.
Ça,
et ouais, c'est naze. C'est vraiment naze. C'est dommage qui s'est passé, en fait. Vraiment, c'est triste, d'ailleurs.
Et en fait, si la loi de Bruno Le Maire, elle passe comme papa dans maman, eh ben, personne dit rien. Le drama, il n'existe même pas. C'est tous ces trous du cul, là, qui ont mis des dramas, là, où il n'y a pas lieu d'en avoir.
On va faire passer à minuit un dimanche.
Bah, de toute façon, le projet de loi est passé. Hein. Il est passé le 30 mars à l'unanimité, hein, de toute façon. Donc,
Une des rares voix qui sera à voter, quoi. Bref. Allez,
attends, imagine, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, elle va passer au Conseil constitutionnel. Tu sais qui c'est le directeur du Conseil constitutionnel en France ?
Des connards de bourgeois de riche.
Non. Bah oui, mais tu sais qui c'est ? C'est Laurent Fabius.
Non. Oh, bon, on est foutus.
Il va légiférer sur l'Internet.
Non, mais il y connaît quoi, l'Internet ?
Le mec, il a même pas connu le Minitel. Mais oui. Faut arrêter.
Ou alors, il était encore au Minitel, peut-être, d'ailleurs. Hein, c'est peut-être ça, la réalité. Hein.
Le trou, je te jure, ça me tue.
S'il a vu, ça descend.
Sacré Laurent.
Il est toujours vivant d'ici là.
Il fera toujours rire. Ah, un doudou coup de fil. Non, je rigole.
Parce aussi bien, il va se retrouver à la télé avec Jack Lang qui parle de lui.
Ah non, ça craint. Le putain qui est
vieux. Portez les
poules. Pas de fun fact pour ce sujet, hein. Désolé, voilà.
Bah, autre point positif, c'est que ça protège nos enfants, parce que nos enfants sont pas super bien protégés, enfin étaient pas super bien protégés sur les réseaux sociaux, notamment parce que il y a beaucoup de parents qui font des abus par rapport à ça.
Ouais.
Maintenant, les enfants sont bien protégés par cette loi. Et les parents qui font des abus encourent maintenant des peines. Des peines au pénal, ça peut aller sur des amendes, des fermetures des sites, enfin voilà, au moins il y a de quoi s'appuyer pour punir les parents qui abusent et les enfants qui gagneraient de l'argent sur les réseaux sociaux en faisant je ne sais quoi, hein, voilà. De toute façon, leur argent est placé sur un compte bloqué et ils n'y ont pas accès.
Ah, chez moi, c'est une jurisprudence Jordi qu'ils appellent ça.
C'est ça, ouais, c'est la jurisprudence Jordi, ouais. Et par contre, on n'entend pas. Nirox, c'est que t'en as pensé, toi, alors, cette histoire? Parce que je crois qu'on t'a pas entendu sur le sujet.
Oh, plein de choses. Moi, si tu veux, j'écoute beaucoup. Oui. Là, j'apprends plein de choses aussi au passage.
Tout à ton honneur.
Et, ouais, non, mais bien sûr. mais oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été signées, mais. Ah bon, bah c'est fait. Hein. Donc, de toute façon, on peut pas contrôler tout ça. Il y a que les plus hauts du panier qui peuvent contrôler tout ça. Donc.
Ouais, non, mais ton point de vue sur ça, tu penses que c'est une bonne chose qu'ils aient réagi?
J'ai presque envie de te dire enfin.
Enfin, une loi qui va légiférer tout ça. Bah, je suis bien d'accord avec toi.
Ouais.
Je suis d'accord avec lui.
Enfin, je suis désolé, je dis enfin, mais ça.
Non, mais
fait,
c'est vrai.
Je crois que ça fait 5 ans que ça a vraiment décollé. Mmh.
Et il fallait que ça arrive.
C'est quoi ce bordel ? Ça fait. Tu rassembles. Il y a 5 ans, tu rassemblais 2 chaînes YouTube. Ça faisait quasiment l'audience d'une télé. Mmh. Et personne n'était protégé.
C'est vrai qu'il y a quand même eu un laxisme là-dessus. Hein.
Donc je me dis enfin.
Bah non, mais carrément, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est encadré au moins.
C'est une bonne chose qui va se
passer. C'est nécessaire, cette loi.
Ouais. Clairement, c'était nécessaire.
Oui, parce que les pubs abusives, les gars qui font des pubs pour le Bitcoin ou qui font du pari, machin, j'ai vu dans la tiers
radio. Alors, ça dépend, parce que il y en a,
les casinos aussi.
Ils savent le faire. Ah, le casino, oui, ça influence.
Mais ils sont interdits de Twitch, hein, les casinos d'ailleurs. Hein, petite info au passage.
Non. Non, pas totalement, parce que.
L'argent, les casinos qui jouent, enfin, qui font miser de l'argent.
De l'argent.
Oui, bien sûr, mais c'est flouté. Aujourd'hui, les noms sont floutés.
Mais ils ont créé une autre plateforme apparemment.
Alors,
pour
plus
le
précisément,
faire, hein,
ce que j'ai vu. Non, c'est,
ouais,
qui
c'est, bah, c'est ça. C'est
alors,
qui
plus précisément, sur Twitch, c'est pas interdit, mais c'est interdit d'en faire la promotion.
Ouais, mais là, voilà, ils les ont vraiment interdits apparemment, puisqu'ils sont barrés.
En fait, faut que ça soit bien flouté.
Mais
si c'est bien flouté,
ouais,
y a aucun
mais je pense
problème.
Que du coup, ils sont barrés pour ça aussi. Ils ont dû resserrer encore la bride.
Oui.
Et donc le Kick existait avant, je crois, effectivement, ça n'a pas été créé pour l'occasion, mais c'est que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Twitch, voilà, c'est exactement.
Ouais, sauf
que tu peux faire du casino. Oui, voilà, tu es deux fois mieux payé.
J'ai jamais été voir d'ailleurs.
Ah, c'est vraiment pareil, sauf que c'est vert. Oui.
En fait. Pareil.
Pardon, après, ça a été créé par un truc
exactement.
De casino en ligne.
C'est ça, je viens de le voir à l'instant, effectivement. En fait, ça a été créé par un truc de casino en ligne.
Ah!
Ouais.
Donc restez méfiants.
Voilà.
Voilà.
Ouais. Il y a deux poids deux mesures tout de même. Voilà. Hein.
qui c'est quand même une réponse aux interdictions de Twitch. Et
ça reste une réponse, mais si c'est comme celle qu'ils avaient tenté un moment avec Ninja qui avait été invité sur le truc, c'était le truc de, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête, le truc de Mixer. Merci, voilà. Si ça se fait comme ça, bon, bah, ça va se tuer dans l'œuf un peu, hein.
Bah, Mixer qui est toujours là, mais.
Que tout le monde s'en fout un peu, comme Dailymotion, quoi, en fait.
C'est ça.
Enfin, la relique.
Il y a très peu de. Très peu de modération.
Ouais, il y avait des problèmes de modération, forcément.
Ouais,
comme,
très peu de modération.
Ouais. Ils ont fait un message il n'y a pas longtemps, qui, justement, pour dire qu'ils allaient faire un gros effort, engager des modérateurs, faire des nouvelles règles de modération, etc., notamment sur la nudité et tout ça.
Ah, bah oui, ça, si ça fait comme Twitch, c'est voilà. Sûr, c'est...
Ça finit toujours comme ça.
De toute façon, il y a souvent des dérives là-dessus, Twitch, hein, effectivement.
Oui.
Ça, c'est...
Oh. Oui.
Bah, là, le problème, c'est qu'avec justement la loi.
Tu vas payer.
Tu vas plus pouvoir faire tout ce que tu veux.
Sinon, tu vas payer. Hein.
Finalement. Donc,
bah, en France, on n'a pas eu trop de problèmes de tout ça. Hein.
Enfin, ouais.
Oui, c'est vrai, mais
venir,
du coup, n'importe quelle, n'importe quelle plateforme de diffusion de streaming, tu vas plus pouvoir faire ce que tu veux, finalement. Qu'il y ait la possibilité ou pas, en France, tu ne pourras plus faire ce que tu veux, même si la plateforme te le permet.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Sinon, tu vas être tout de suite, tu te prends une amende. Enfin, ils ne vont plus rien assumer, quoi. Là, tu te retrouves au pénal direct, hein, pour le coup.
Eh oui.
Mais l'avantage, c'est que le peu qu'on connaît de la France, il n'y a jamais eu de polémique sur quoi de nudité, de.
Oui, mais ça va venir doucement.
Alors,
ouais,
si,
y en a déjà eu.
Mais...
Il y en a plus.
Oh, même de
nudité, il y en a eu, en fait, Nirox. Il a raison.
Ah ouais, oh putain.
Lié à Twitch.
Ouais, ouais.
Ouais.
Ah, okay.
Il y a même des histoires glauques de nanas qui se font moitié déflorer devant Twitch. Enfin, tu vois pas tout, mais en gros. Et ça, il y a des Françaises dans le lot. Il y a des Françaises dans le lot, donc voilà.
Ah ouais, ok.
Let's go. Tu passeras leur chaîne.
Je voudrais garder mon esprit.
Je suis désolé, mais parce que en fait.
Je sais que j'ai pas suivi.
J'avais enquêté sur un truc, c'était la nana qui avait tout montré. La caverne des secrets, en fait.
Let's go.
Et j'avais appris beaucoup de choses à ce moment-là. J'étais. Estomaqué. J'ai dit, c'est juste pas possible.
Mais oui, en France, il y a quand même pas mal de problèmes aussi. Faut pas croire.
C'est moins qu'aux États-Unis, il a raison. Mais ça arrive tout doucement.
Non, bah évidemment, les États-Unis.
Non, non, mais vraiment, c'est moins courant, on est d'accord. Mais ça va venir doucement et la loi est très bien pour ça. Elle va encadrer un peu les choses. Ouais. Je trouve ça ultra positif pour ce genre de métier. Voilà, c'est très bien.
Et encore une fois, on est précurseur parce que je crois qu'on est le premier pays à faire
oui,
un truc comme ça.
Oui, à instaurer des lois comme
ouais,
ça.
Ouais, on est le premier, tout à fait.
Mais tu sais, ils sont quand même à l'ancienne époque où Internet doit se réguler par lui-même et tout, alors que ça marche
bientôt,
jamais.
Bientôt, l'anonymat sera fini aussi sur Internet, ça c'est une bonne nouvelle.
Ça dépend pourquoi. Ouais, mais...
Après, ça dépend. Aujourd'hui,
après, ils ont enlevé l'anonymat en Corée, mais ils sont revenus à l'anonymat. Hein. Ça n'a pas aidé.
Ah, comme quoi, c'était pas une solution. Alors. Ouais. Je sais pas.
C'est pas la solution.
Ça permettrait aux gens d'être moins trolls, peut-être, d'assumer un peu plus ce qu'ils disent. Je suis pas sûr.
C'est un autre débat.
Ça dépend. Il faudrait trouver un juste milieu. C'est pour éviter. Enfin, c'est pour pouvoir repérer ou aller chercher plus, mieux. Enfin, pas plus, mais mieux les responsables de harcèlement, notamment au niveau des streameuses, parce que souvent on n'arrive pas à trouver les responsables, tu vois, sur les plateformes. C'est très compliqué.
On essaiera d'en parler une autre fois, je pense, parce que là on s'égare. Mais ça pourrait être un sujet très intéressant.
Par contre,
effectivement.
Ouais. Donc j'ai juste une info pour finir le sujet. Une info qui peut être très très intéressante pour ceux qui veulent se lancer dans l'influence ou je ne sais point, c'est que du coup, vu que la loi est passée, sachez que maintenant, vous pouvez aller sur le site du gouvernement et il y a donc un guide pour vous aider à être dans le cadre de la loi sur le site du gouvernement pour commencer l'influence.
Ouais. Bah, vu comme j'ai influencé mes gamins, je suis pas prêt d'aller sur le site.
Ouais.
Non, mais voilà, il faut le savoir. Vous pouvez maintenant aller sur le site du gouvernement et n'oubliez pas d'aller regarder sur le site du gouvernement ce guide qui encadre l'influence. Vous aurez vraiment
tout
qui est récapitulé de manière très pédagogique pour vous aider à faire les choses de manière légale et correcte.
Et déclarer vos revenus.
Voilà, voilà.
S'il vous plaît.
Supplémentaires. Oh
Voilà.
Mais oui, on les a vus au fond là, ceux qui se cachent là, relevez-vous là. Oui, on vous voit.
Déclaré.
Stéphanie est tellement pointue qu'elle pique.
Bon bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que t'as des infos sympas à nous sortir, Fanny, de ton chapeau?
La minute, Fanny.
Ah, oui.
Ah ouais, comme ça. Sans transition, ah ouais. Bam.
Ah si, on a une.
Ah ouais,
Fanny, à toi.
Alors, c'est pas du tout des infos, hein. Par contre, hein, j'apprends. Je, c'est pas des infos. Hein. Je tiens à préciser.
Ok, voilà. Ok, d'accord. Vas-y.
Alors, il y a une rumeur qui dit il y a des Russes, parce que je m'accorde à l'actualité, on est bien d'accord.
Oui. Ah.
Donc là, on va parler de Poutine, tout ça. Je suis désolée.
Hein, chez toi.
C'est bon. C'est bon.
Vas-y.
Sujet extrêmement sérieux, je suis navrée. Hein. Donc en fait, il y a des Russes qui ont voulu porter plainte auprès de Warner Bros. Mmh. Vous voyez. Pour un sujet extrêmement sérieux, en fait, c'est qu'en fait, le personnage de Dobby ressemble beaucoup trop à Poutine.
Alors, oui, alors, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, on est dans...
Alors,
Attends. On est dans une toute autre catégorie voilà. Podcast. On est sur des trucs un peu plus. Voilà. Donc Dobby, c'est personnage ça. D'Harry Potter, est un elfe de maison plutôt spécial. plutôt. Faites la recherche. Vous tapez Dobby Harry Potter. C'est bon, c'est quelque chose.
Non mais j'ai fait exprès de pas annoncer le truc pour qu'il soit aussi surpris que nous en fait les gens, tu vois. Je trouvais ça très drôle. Mais ouais, la prochaine fois, ça sera bien annoncé et tout. Mais je voulais que la primeur soit pour tout le monde, voilà. Donc à chaque fois, vous aurez un petit moment Fanny comme ça où elle va nous sortir une info complètement what the fuck et on va lui laisser les 10 minutes de fin en général pour nous faire vibrer.
Alors. Voilà.
Non, mais bien évidemment.
Alors non, ils ont envisagé de porter plainte. Okay. Malheureusement, le président n'a pas risqué de donner de commentaires et il n'a pas voulu s'exprimer. Du coup, ils ont laissé tomber. Et évidemment, c'est une sacrée rumeur et absolument fausse. Voilà, je tiens à vous le dire.
Parce que pour moi, c'est un troll.
Il était bien le troll. Il était bien le troll. Il était bien, on y a cru. Hein. Bravo,
ah,
bien
c'est
joué.
C'est un troll. J'ai dit ça.
Ah, c'est bon.
Par contre, j'ai une deuxième info. Et ça, c'est une réalité. Et c'est tout récent. donc, c'est le 24 mars dernier. Un record du monde a été battu. Mais quelle est-elle?
Quelle est-elle?
C'est le record du monde de la plus grande planche de charcuterie.
Let's go.
On joue les maîtres. On joue les maîtres.
Voilà.
Combien de mètres? Allez. À votre avis, combien de mètres?
Voilà. Combien de mètres vous pensez?
La plus longue planche de charcuterie. On est
24 mètres.
24 mètres.
Ah ouais, 24
toi,
mètres.
Toi, tu dis 24 mètres, Didi.
Bah, champion du monde.
Allez, 30 mètres.
Ok, 24 mètres. Ah ouais, non, moi, j'étais sur du 70 mètres.
Ah ouais.
Donc, toi, Dars, tu dis 70 mètres. Mordic, tu dis 30 mètres.
Ouais, mais j'hésite maintenant.
Nerox.
Moi, j'étais plus parti sur les 60 mètres.
Ok.
Allez, je lui dis... Elle fait 62 mètres 38.
Oh, le salaud. Bien joué. Bravo.
Nirox, je ne dois pas plus dire. Oh, elle fait 200 mètres. Et boum.
Mais ouais, je m'attendais trop à ça. Je vais dire 150.
Ce record...
Coup,
ce record a été battu. Donc, c'est tout récent, hein, vous voyez. Ce record a été battu, en plus, étonnamment, par un professeur d'école qui est architecte, en fait. Il apprend l'architecture à ses élèves. Donc, il a eu l'idée, avec ses élèves, de faire cette grande planche de charcuterie dans une école en Californie, pas très loin de Los Angeles. Et ils se sont amusés à faire ça, en fait, et ils ont battu le record.
Est-ce qu'ils ont tout bouffé, après
voilà.
Mais attends.
Alors ça, j'en sais rien, mais je pense qu'ils se sont bien cassés le ventre, hein, effectivement.
Je vais aller pleurer un peu parce que je suis triste de ne pas avoir été invité.
Non, mais j'ai envie de me dire... Je suis en train de me dire, mais à quel moment tu dis l'architecture et après...
Tiens, si on faisait la plus grande planche de charcuterie du monde...
Ouais, t'as essayé de faire une planche de 64 mètres, toi, c'est vachement long.
Mais en fait, ils ont mis plusieurs.
En fait, pour faire une.
Bah, en fait, le mec, il est professeur d'architecture et d'innovation de produits et de design. Bon, ouais. Et il a assemblé en fait plusieurs tables et plusieurs planches de bois de la même taille pour faire une
merde.
Planche. En
fait.
Mais voilà.
Ben oui, faut être architecte pour faire une putain de table de 60 mètres.
Voilà.
Oh, merde.
Et c'est un truc de fou. Et du coup, je me disais, vous, quelle est la plus grande planche de fromage que vous avez jamais mangée?
Je pense.
Ça tombe bien, j'aime pas le fromage.
Oh, tu sors.
Fromage ou charcuterie? Non, mais fromage ou charcuterie? Non, mais pourquoi toi, tu gâches mon délire, toi?
C'est pas pareil. Je suis désolé, c'est pas pareil. Charcuterie, fromage, c'est pas pareil.
Oh, mais comment on peut.
La charcuterie ou fromage, ok?
Non, mais arrêtez, c'est harcèlement, ça, monsieur.
Oui, mais.
Non,
alors,
je suis pas fan.
Charcuterie au fromage.
Ouais, non, mais
attends,
des plans.
Mozzarella di bufala là.
Par contre, attends. Par contre, il y a certains fromages, je les déboîte. Tartiflette et tout ce qui est tartiflette et.
Ah, t'aimes bien le reblochon.
Fromage, ok.
Ah, je les déboîte.
Le fromage, je déboîte. Pas le fromage, alors que tu me parles de raclette.
Mais ouais, putain, mais tu sors.
Je déboîte. Mozzarella, c'est un truc de ouf, mais après tout ce qui est camembert, le reste.
Ah, mais t'aimes pas le camembert en fait, tout simplement quoi.
Non, c'est tout le fromage, mais sinon.
T'es un humain normal en fait.
Non, mais par contre, désolé, mais le reblochon ça a pas de goût.
Ah, bah
désolé,
non.
Vous allez pas m'aimer, mais.
Reblochon.
Je manger cuit, sinon c'est pas ouf quoi.
Tu sais, ta tartiflette, c'est l'industrie du reblochon qui l'a inventé pour faire vendre du reblochon parce qu'ils en vendaient pas assez.
Ah, merci. Et ça n'a pas de goût.
C'est même pas un plat traditionnel, la tartiflette. C'est un plat qui a été inventé dans les années 90.
Ah, merde. 90. Ah ouais, l'arnaque totale, en fait.
Alors,
ça peut être traditionnel quand même.
Non, il est cuistot, Nirox, il a une réponse. Non.
Les petits gens qui prennent fromage spécial tartiflette, c'est de la merde. Prenez du reblochon, c'est meilleur. Ça a plus de goût.
Alors.
Parce que là, le fromage,
il est dégueu,
celui-là.
Ouais,
ça
il est dégueu,
celui-là. Du reblochon.
Celui-là n'a vraiment pas de goût. On est d'accord.
Le vrai débat.
Je sais pas, vous achetez vos fromages à
raclette. Bon, alors, du coup, la plus grande table de fromage que j'ai mangé, je sais pas, on dirait 2 mètres. Allez hop, ça devait être un truc dans le genre.
Pour la raclette, tu prends du morbier, comme ça, t'es pas emmerdé, frère.
Vraiment, t'as mangé une planche de fromage charcuterie de 2 mètres?
Une soirée, c'était vraiment très, très bien servi. Et je pense que le truc devait faire au moins 1m50. Et ça bougeait autour de nous et c'était chargé de charcuterie de frometon. Donc, c'est les deux, on va dire. Voilà.
Bah, moi, j'en fais tous les jours de à peu près.
Mais j'ai pas tout mangé.
Attends.
Je vous rassure.
Ouais, je dirais.
Ok.
Ah, moi, on est sur.
Moi, je l'ai fait, donc je sais. Hein.
20-30 cm, quoi.
Après, à la maison, oui, c'est plutôt ça. Hein.
Ok.
T'as
jamais connu.
Non, moi, je ne mange pas mes charcuteries en planche, moi.
Non. D'accord,
salut,
ok.
Merci d'être venu, hein, c'est gentil. Alors.
Au resto, il fait pas une planche à charcuterie, c'est charcuterie.
Moi, je suis allée manger dans un restaurant où c'était leur spécialité. Et donc, on nous a servi une planche d'un mètre où il n'y avait que ça dessus.
Ah ouais, okay. Bah, ça devait être plus chargé que moi. Je pense ce que t'as bouffé. Un mètre, mais plus chargé, je pense. Tu vois.
Moi, je la mange dans l'assiette, la charcuterie.
Non, mais on parlait du service. On ne mange pas sur la planche non plus, hein, je te rassure, hein, Didier. On se sert et on mange dans l'assiette, on est civilisé. Hein.
Quelle est la plus grande planche que vous avez mangée?
Alors, j'ai jamais mangé de planche.
Bah, moi, du coup, c'est.
Une planche par un architecte une fois, elle faisait. Au moins deux mètres.
Tu l'as mangé? Non. C'était bien, alors? Ça t'a plu?
Incroyable. Et le goût? Le goût
un peu décharge, mais ça va.
Ah, ça doit piquer la langue un peu, non?
Ouais, faut savoir croquer où il faut, je pense. C'est une question de
terre. Ça dépend de l'essence du bois, je pense, qu'il utilise. Enfin, bref.
Depuis la laitance de vent qui pousse, c'est la queue.
D'Arge Castor. D'Arge le Castor.
Moi, je vous conseille.
D'Arge Castor, il a une queue plate et une queue qui pousse. Ça va, les gars? Salut.
Moi, je vous conseille le bois encore vert. C'est quand même un peu plus. Voilà, la matière est moins dure.
Ouais.
Après, il y a aussi l'érable qui est pas mal.
Oui, pour son sirop.
C'est pas mal. Déjà, le côté sirop, le côté un peu.
Et
nutritif aussi.
Ouais. On est vraiment en train de parler d'arbres et de les manger, là. On est vraiment en train de faire ça, là.
Non, on va arrêter.
Non, parce que là, on va trop loin dans la vanne, je pense. Effectivement, on a perdu tous les auditeurs, là. Bonjour, bienvenue dans Casu. Ah, ben non, pardon.
Je pense qu'on les a perdus, là, depuis le temps.
Alors, vous aimez la nouvelle alors, formule ou pas?
C'était bien.
Alors, on vous a plu?
Dites-le tout de suite, sinon on va souffrir. Bon, alors du coup, vous avez dû remarquer qu'il nous manquait aussi quelqu'un pour ces émissions-là. On espère qu'on le reverra très vite. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport au sujet ou est-ce que nous pouvons nous arrêter là?
Je pense qu'on est bien là.
Bon tour.
Bon, voilà.
Ouais. Discuter.
Eh ben, c'était sympa comme petite discussion. Ouais, merci beaucoup d'être venu.
Merci à toi. Bah,
merci à toi, merci à tous.
Voilà, d'être voilà, nous écouter aussi. Hein.
Merci Didier.
Merci à vous, merci à moi, vraiment. Merci à toi.
Elle est au pluriel. Voilà. Bon, on va arrêter là, la vanne. Elle va encore trop loin. Donc, on va stopper maintenant parce que sinon, c'est foutu. Bon, en tout cas, on vous retrouve la prochaine fois. D'ailleurs, maintenant, on va sortir tous les mois avec un numéro, un peu comme ça, hein, avec un sujet au milieu.
Ça
voilà.
Un début,
voilà,
un milieu,
exactement. Exactement. Ça fera un petit peu office de repas du jour, même si on sait qu'il y a rien à
menu
bouffer.
Menu maxi best.
Voilà. Bon, alors, je voudrais, voilà. Excusez-moi, juste par contre, on passe un gros coucou à la famille d'Amandine et courage. Et du coup, on vous laisse là. On vous souhaite tous une bonne, un bon mois. Voilà. Des bisous. Salut.
Des bisous. Salut.
Salut.
Bonne année.